Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'encyclique, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Jean-Paul II, 1996. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Ce récit des origines, tiré de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, versets 27-28, est le fondement même de la civilisation judéo-chrétienne. Incompatible donc avec l'émergence au XIXe siècle de la science préhistorique, hérétique même, s'exclament les chrétiens les plus traditionnalistes, pour qui toute idée d'homme fossile reste inaudible. Aux États-Unis, ceux qu'on appelle les créationnistes sont en effet près de 40% à continuer de penser que Dieu a créé la terre et l'homme il y a moins de 10 000 ans. Sondage Gallup, 2014. Savent-ils seulement que de l'autre côté de l'Atlantique, le premier préhistorien à disposer d'une chaire au Collège de France portait la soutane? C'était en 1929. Il s'appelait l'abbé Breuil et fut surnommé le pape de la préhistoire. Confronté aux avancées de la science, le monde chrétien a connu une première grande secousse au XVIe siècle, avec la révolution copernicienne. Ce bouleversement de la vision de l'univers prit sa source au sein même du clergé. C'est en effet un chanoine polonais, Nicolas Copernic, versé dans l'astronomie et les mathématiques, qui en fut l'initiateur. Avec lui, le monde découvre alors que la Terre tourne autour du Soleil, héliocentrisme, alors que le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 5, mentionne le mouvement céleste et la stabilité terrestre. Le second ébranlement, plus violent encore, survient en 1859, avec la publication de « L'origine des espèces » de Darwin. 3 ans après la découverte en Allemagne, dans la grotte de Feldhofer, dans le vallon de Neander, d'un être fossile aux traits jugés archaïques et à la conformation crânienne jusqu'ici inconnue, Darwin défend la théorie d'un long processus évolutif de l'hominisation, dont le moteur serait la sélection naturelle conduisant à l'émergence de l'homme moderne. Les partisans du modèle adamique accusent le coup. En 1896, l'anthropologue Marcelin Boule, dans un article de la revue L'Anthropologie, fait référence à nombre d'ecclésiastiques, d'ailleurs très honorables, qui considèrent la doctrine de l'évolution comme venant en droite ligne de l'enfer et ses partisans comme des suppôts de Satan. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, l'Église voit apparaître dans ses rangs des hommes qui vont s'intéresser passionnément à la préhistoire. Ils vont tenter d'établir un dialogue entre le dogme religieux et la science. Peut-être ont-ils en tête la parole divine tirée du livre d'Osée. « Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, « je te rejetterai de mon sacerdoce. » Chapitre 4, verset 6. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, afin d'inscrire pleinement l'Église dans son époque et de veiller à son influence, un certain nombre de prêtres vont s'impliquer dans des sociétés savantes pour participer à des recherches en histoire, mais aussi pour débattre des origines de l'homme. Toutefois, si tous partagent les mêmes interrogations à propos d'une nouvelle chronologie au temps long, l'origine animale de l'homme et son hypothétique unité, leur approche de la préhistoire diverge. Deux courants majeurs se distinguent alors. D'un côté, les concordistes, qui s'appliquent à faire plus ou moins concorder les recherches scientifiques avec la foi et la Bible. De l'autre, ceux qui acceptent les résultats des découvertes scientifiques, sans pour autant remettre en question les fondements de leur foi. Fanny de France Jublot, docteur en histoire de l'École pratique des hautes études, et auteur en 2016 de la thèse « Être préhistorien et catholique en France, 1859-1962 », relève qu'à la suite du dominicain Dalmas Leroy, à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de chercheurs ont pu valider l'origine animale du corps humain sans compromettre l'origine divine de l'âme et le dogme du péché originel, évoquant l'infusion de l'âme par Dieu dans un corps animal, qui se serait transformé par le biais de l'évolution. Dalmas le Roi fut contraint par l'Église de renoncer à ses thèses. Ses écrits furent néanmoins repris aux États-Unis par le père John Augustine Zamm dans « Evolution and Dogma ». Parmi les clercs déterminés à faire bouger les lignes dans leur famille religieuse, l'abbé Jean Guibert, 1857-1914, occupe une place de choix. Professeur de sciences naturelles, il se passionne pour la géologie, la botanique et l'anatomie. Cet éveilleur de conscience a longtemps enseigné au séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux. Il a notamment eu pour élève l'abbé Breuil et les frères abbés Amédée et Jean Buissonni, qui ont joué un rôle important dans l'archéologie préhistorique du début du XXe siècle. Dans un manuel destiné aux séminaristes, « Nos origines, questions d'apologétique », publié en 1895, il expose les avancées de la préhistoire en confrontant tous les points de vue. Son objectif est d'offrir aux élèves une vision distanciée et objective des débats de son époque, tout en les formant au respect de la neutralité scientifique. Pourtant, parmi les préhistoriens catholiques issus de cette mouvance, aucun n'a définitivement abandonné l'idée de trouver des correspondances entre la recherche archéologique et la Bible. Une position difficile à tenir dans la France du début du XXe siècle, le mouvement de sécularisation étant alors fort dans la société française. Dans sa thèse, Fanny de France Jublot constate une certaine frustration de ne pouvoir pleinement exprimer dans ce contexte leur subjectivité catholique. L'abbé Breuil, préhistorien mondialement reconnu dans le domaine des industries paléolithiques et de l'art pariétal, exprimait difficilement dans l'Hexagone ses réflexions quant aux liens qu'il pouvait établir entre sa pratique scientifique et sa foi. Les scientifiques français empreints de religiosité se sont parfois censurés, observe la chercheuse. Et de fait, elle constate que lorsque Breuil quitte la France pour l'Afrique du Sud dans les années 1940, pour ne pas avoir à collaborer avec l'occupant allemand, il s'autorise avec moins de précautions à tisser des liens entre religion et préhistoire. D'autres ont eu moins de réserves, à l'instar des abbés Jean et Amédée Buissonni, qui ont découvert le premier squelette entier de Néandertal en contexte funéraire, à la chapelle aux Saints, Corrèze, en 1908. Pour lier le récit biblique à la découverte de cet être fossile qui renvoyait à l'origine animale de l'homme, ils ont insisté sur sa dimension spirituelle et humaine, en faisant observer que cet homme avait été inhumé volontairement, signe d'une croyance ancestrale. Les préhistoriens catholiques français subissent au début du XXe siècle les contre-coups de la crise moderniste initiée sous le pape Pie X. Les exégètes, qui osent sortir du cadre des interprétations littérales du texte biblique, se retrouvent aussitôt condamnés. Dans les années 1920, Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, philosophe et paléontologue, est démis de ses fonctions de professeur de géologie à l'Institut catholique de Paris et exilé en Chine, pour avoir eu la mauvaise idée de confronter la question du péché originel à la théorie de l'évolution. Pendant près d'un siècle, de 1860 à 1950, le Vatican s'est refusé à trancher sur la question de l'évolution du corps de l'homme. Seul Léon XIII autorise des débats plus marqués lors des congrès scientifiques internationaux des catholiques entre 1888 et 1897. Une relative ouverture a lieu dans les années 1950, avec l'encyclique Humani Generis, sous le pontificat de Pie XII, qui envisage une possible origine animale du corps humain dans le cadre strict du monogénisme, théorie selon laquelle l'homme dériverait d'un seul couple et d'une seule origine. Le 22 octobre 1996, devant l'Académie pontificale des sciences, le pape Jean-Paul II va encore plus loin. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'encyclique, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs à la suite d'une série de découvertes faites dans diverses disciplines du savoir. La convergence, nullement recherchée ou provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les uns des autres, constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie. de quoi rendre Darwin heureux pour l'éternité.